Cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Joseph le 16 juin 1987.
Enseigner la philosophie à l'école Saint-Jean, ce n'est plus de la Parce qu'il faut lutter constamment contre tout un milieu. Quand au contraire on est un milieu religieux, on peut être immédiatement. Mais ce n'est pas parce que, voyez, le milieu permet d'enseigner immédiatement la métaphysique que la métaphysique enseignée dans ce milieu est moins métaphysique. Je dirais l'inverse. Elle est plus métaphysique. Parce que l'attitude religieuse me permet normalement plus intelligent, d'aller plus loin dans l'exigence de l'intelligence, d'aller plus rapidement vers la finalité, donc la recherche de la vérité. Et ça, c'est très difficile à faire comprendre. Très, très difficile. Donc, voyez bien, l'adoration, la plupart du temps, se fait grâce aux traditions religieuses. Et l'adoration philosophe peut constater que le ferment évangélique apporté par le Christ permet à l'homme d'être plus homme. Et ça, uniquement en regardant l'évangile et les béatitudes évangéliques. Que si un homme vit des béatitudes évangéliques, il est parfaitement épanoui comme homme. Il a une personnalité qui dépasserait toutes les autres personnalités humaines. Parce que l'évangile unit deux extrêmes, la contemplation et l'action. C'est ça qui a frappé le plus Bergson. Ça contient l'exigence de la contemplation et l'exigence d'un don total au prochain. Et c'est là, par là, que je découvre que la personnalité humaine, que la personnalité chrétienne a quelque chose d'unique. À la croix, la vérité et la miséricorde se sont embrassées. Vous découvrirez dans la personne chrétienne l'exigence de la vérité, une exigence farouche de la vérité dans la contemplation, et une exigence farouche de charité fraternelle et de miséricorde et de pardon. Et ça unit. Ce qui fait que les éléments de la personne, les éléments multiples de la personne, se trouvent poussés à l'extrême. Vous voyez, je prends l'objectivité des paroles de Jésus, de l'Évangile, et je prends la personne même du Christ. Parce que la personne chrétienne, c'est la personne du Christ. Ce que nous verrons ce soir. De sorte que le philosophe peut constater, à partir de l'Évangile, que quelqu'un qui vivrait pleinement de l'Évangile serait une personne humaine parfaite. Oui. Et qui ne voit pas très bien ce qu'on pourrait ajouter de plus. On ne peut pas ajouter plus que la contemplation du chrétien. Il dit que c'est une contemplation de la très sainte Trinité. Je ne peux pas comprendre ce que ça veut dire en tant que philosophe. Mais cette contemplation de la très sainte Trinité, c'est la contemplation du Dieu, un créateur, absolument simple. Ça, je peux le comprendre. Et je regarde la charité fraternelle comme l'ultime sommet de la philanthropie. L'ultime sommet d'un don au prochain. Ça ne peut pas aller plus loin, puisque ça va jusqu'au pardon. Et ça va jusqu'à une miséricorde telle que je donne ma vie pour mon prochain. Donc je touche les deux extrêmes, et je les touche dans le sommet. Que ce soit réalisé très rarement, je le constate en tant que philosophe. Il y a peu de vrais chrétiens. Les chrétiens trahissent toujours, tandis que les marxistes trahissent moins, parce que leur idéal est bien moins élevé. L'homme est plus que l'idéologie marxiste, alors que le christianisme est plus que l'homme. Donc c'est pas étonnant que l'homme trahit tout le temps. Et quand les gens font ces réflexions-là, parce que c'est des réflexions qu'on entend tout le temps, oh, les chrétiens sont tellement loin. Tandis qu'au moins, les marxistes, ils sont entièrement engagés. Je dis, mais c'est beaucoup plus facile. C'est bien plus facile d'être marxiste que d'être chrétien. Parce que l'idéologie marxiste est terriblement limitée. Tandis que l'évangile n'est pas limité. C'est la contemplation, c'est la prière, c'est l'adoration, c'est le don total de nous-mêmes au prochain. Et ça, je peux le prendre pour toutes les idéologies. Donc là, il faut être très net. Il faut assommer les gens quand ils vous disent des choses comme ça. Pour leur montrer qu'ils disent de grosses bêtises et qu'ils regardent, parce que c'est pas philosophique du tout. Vous devez regarder d'abord le contenu de la vie chrétienne, le contenu de l'idéologie marxiste, et comparer ça à l'homme tel que le philosophe peut l'atteindre. Vous verrez que le marxisme mutile l'homme. Alors, il n'y a plus qu'une seule branche. Grosse, grosse, grosse. Tandis que de l'autre côté, il y a de philosophe ne peut pas dire en quoi la personnalité chrétienne consiste, mais il peut constater que ce que dit l'Évangile, s'il est vécu, aboutit fatalement à épanouir pleinement la personne humaine. Parce que l'Évangile est une donnée objective que le philosophe peut recevoir comme une tradition religieuse. Il ne saisit pas positivement ce que c'est que la foi, mais il saisit la foi dans ses, j'allais dire, dans ses retombées religieuses. Et dans ses retombées religieuses, il saisit que c'est la religion la plus parfaite qui existait, la plus pure qui existait, la plus humaine qui existait, et la plus divine. Ça, il peut le saisir. Personne humaine du sage au plan philosophique, même si elle est rare, elle peut exister. Et nous avons peut-être tous rencontré quand même une certaine sagesse philosophique chez certains qui est au terme de leur vie. Il y a quelque chose ce que c'est que cette sagesse philosophique. Vous voyez, je ne dis pas que tout chrétien doit être un sage contemplatif, un sage philosophe, mais certains chrétiens sont des sages contemplatifs et d'une sagesse philosophique. Ça existait. Un Thomas d'Aquin était sûrement un sage d'une sagesse philosophique. Un Aristote était sûrement un sage d'une sagesse philosophique. Donc, du fait même que ça existait, c'est suffisant. Du fait aussi que c'est quelque chose qui existe rarement, ça nous intéresse d'autant plus. Ça, c'est sûr. Ça intéresse le philosophe des choses très rares, des pierres précieuses étonnantes. Ça l'intéresse. Et le philosophe peut constater qu'il y a des écoles qui sont faites pour ça. Il y a des lieux de prédilection où on cultive encore ces plantes rares que représente la contemplation philosophique. Mais que dans beaucoup d'autres lieux, la contemplation philosophique n'est plus du tout acte. Alors, en quoi consiste la personne du sage au plan philosophique? C'est le contemplatif, c'est-à-dire celui qui a organisé sa vie vers un certain regard contemplatif. Sans adorer. Ça, je crois qu'on peut l'affirmer. de la sagesse divine, au plan de la sagesse philosophique. C'est pour ça que dans un climat comme la Sorbonne, c'est très difficile de compter d'adorer. Les examens empêchent l'adoration. Constamment. Les concours empêchent l'adoration. Vous voyez, tout est organisé pour supprimer l'adoration. Et donc supprimer la contemplation. C'est très net dans notre monde d'aujourd'hui. Les universités sont devenues des usines et non plus du tout des lieux où l'on peut prier, où l'on peut chercher la vérité. On ne cherche plus la vérité. On est là pour passer des examens et les passer de la manière efficace qui soit, la plus efficace et la plus rapide qui soit. Tout le monde est pressé pour passer le plus vite possible ces examens. Pour pouvoir partir le plus rapidement possible. Tout est comme ça. Donc, ça enlève ce rythme particulier de celui qui adore. Celui qui adore reconnaît sa totale dépendance. Quand vous reconnaissez la dépendance, vous n'êtes plus maître du temps. Tandis que le regard est partiel. passion, c'est du côté de l'amour. C'est du côté de cette attraction et du côté de l'adoration. Adoration, attraction. Ça, c'est quelque chose d'absolu. Et le regard est partiel. Puisque je ne vois pas l'être premier. Je ne vois pas le créateur. Je ne vois pas sa personne. Je sais qu'il existe et je sais qu'il me regarde. Je sais qu'il pense à moi, puisqu'il est mon créateur. Et du fait même qu'il me regarde et qu'il pense à moi, je peux penser à lui. Je peux tourner mon regard vers lui. Être en attente du dévoilement. C'est cela la contemplation philosophique. Il n'y a aucun contenu propre. Je m'appuie sur les effets du Créateur, puisque je ne peux pas avoir une connaissance immédiate de Dieu. J'ai une connaissance médiate par ses effets. Alors, c'est où l'ordre du monde, où l'ordre le plus intérieur et le plus intime qui est en moi. Je suis attiré. L'amour présent en moi, grâce à cette attraction, va réaliser au plus intime de moi-même un amour à l'égard de l'être premier, à l'égard du Créateur. Et bien cet amour peut me servir comme un effet sur lequel je m'appuie pour me laisser attirer, pour me laisser prendre, et à partir de cet effet, remonter jusqu'à la source. Tandis que dès qu'elle découvre l'existence de l'être premier, elle redevient. l'esprit. Au point de vue de la volonté, au point de vue de l'intelligence, donc au point de vue de l'esprit. Demande de s'épanouir de plus en plus, puisqu'elle est toujours à l'état embryonnaire. Cette contemplation philosophique reste toujours dans une très grande fragilité. Dans une très grande précarité, puisque je me saisis totalement dépendant de l'être premier. Et je me saisis comme dépendant de l'être premier dans ma dépendance même de créature. Je suis donc totalement dépendant, et donc dans un état de pauvreté, de petitesse. Et c'est à l'intérieur de cet état de pauvreté, de petitesse, que mon intelligence s'éveille au mystère de Dieu, au mystère du Créateur, à ce mystère que j'essaie de contempler, et que j'essaie de tout faire pour contempler. Donc vous voyez une très grande précarité dans cette contemplation, ce qui exige de faire que cette contemplation soit enveloppée de prières, de demandes. Une fois que j'ai compris que cette contemplation vraiment finalisait mon esprit et toute ma vie humaine, alors je demande que cette contemplation, que cette attraction plus exactement de Dieu sur moi soit de plus en plus totale. Le philosophe demande cela, ça fait partie de sa vie philosophique, ça. Alors il faut bien comprendre comment cette contemplation va polariser en lui ce qu'il y a de plus humain et de plus profondément humain. Sa capacité d'aimer, sa capacité de recherche de la volonté, de l'intelligence. Ces deux grands points de vue qui permettent de comprendre comment cette soif de contemplation est capable de tout polariser dans l'être humain. Comprends cela, puisque par cette attraction, j'atteins ma fin ultime, ma fin propre, Dieu en tant que créateur. Et je l'atteins autant que je le peux, en étant le plus attentif possible à cette attraction. Donc c'est bien ce qui finalise toute ma vie, et qui la finalise partiellement dans l'ordre du conditionnement. Je ne peux pas tout le temps vivre de cette contemplation. Je ne peux pas tout le temps vivre de cette adoration. Il y a les nécessités de la vie. Et les nécessités de la vie sont d'ordre matériel. Et ces nécessités de la vie d'ordre matériel viennent diminuer l'exercice de ma contemplation. Et parce que ça diminue l'exercice de ma contemplation, cette contemplation ne peut plus avoir l'intensité et la force qu'elle devrait avoir. Et ça, c'est cause de souffrance. Et ça fait constater que cette contemplation, elle est vécue d'une façon très imparfaite. Elle est très grande, elle est magnifique, elle est étonnante, elle est quelque chose d'ultime, mais elle n'est vécue que d'une façon imparfaite. Et ça, le philosophe doit le constater. Parce que ça lui fait comprendre que cette vie contemplative n'est pas commode du tout à vivre. Pour être vécu, il faudrait la vivre en plus, avec plusieurs, comme des amis qui s'aident. Et seul, c'est très rude. Parce que le solitaire est toujours comme Dieu, ou comme quelqu'un qui est tendu trop haut et redégringole, redescend. C'est perpétuellement, vous voyez. J'allais dire une route verticale, difficile, la plus difficile qui soit. Cette contemplation polarise donc sa volonté et son intelligence pour essayer de rejoindre ce qu'il y a de plus profond en Dieu, ce qu'il y a de plus aimant. méditer à deux. Est-ce qu'on peut se renvoyer la balle? La balle divine, qui est la parole de Dieu. Alors ça fait des silex contre les silex, c'est merveilleux. Mais dans la contemplation, c'est Dieu lui-même. Alors on ne peut pas s'en servir. Et c'est pour ça que la contemplation est toujours seule. C'est vertical. Et on est obligé de tenir compte de toutes les obligations de la vie. Mais alléger le plus qu'on peut. La contemplation donne le sens à la vie humaine et achève la personne de l'homme. L'homme trouve son achèvement en Dieu par la contemplation. L'homme comprend qu'il ne peut être achevé que par Dieu. Il est solidaire. Un peu à cette contemplation, il comprend ça tout de suite. Il comprend que c'est quelque chose qu'il doit garder précieusement parce que ça se perd. Le goût de la contemplation se perd. Parce que c'est difficile et que ça exige un état de lutte permanent. Alors ça se perd. Les gens sont fatigués. Alors quand les gens sont fatigués, ils baissent les bras et puis ça y est. Je parle d'un point de vue purement philosophique. Dans la contemplation chrétienne, c'est pas la même chose. Heureusement. Parce que si la contemplation n'était que philosophique, ce serait pas du tout la même chose. Je crois que c'est ce qu'on doit dire pour le contemplatif. Première physionomie de la personne humaine. Vous voyez, c'est très la physionomie du boulot. Et il est une personne. personne entend qu'il est mon ami. Donc c'est moi qui donne